l'avions laissé, pleurant sans vergogne, devant toute sa suite. Son rêve de grandeur et de gloire était écroulé. Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, ne serait pas reine de France. Elle ne prendrait plus de ville, ne passerait plus de revue au son des fanfares et du canon. 3 semaines auparavant, le grand Condé la traitait en frère d'armes. Elle faisait la joie des soldats par ses allures martiales. Et on l'aurait fort surprise et encore plus offensée si quelqu'un lui avait dit qu'elle était capable d'être presque aussi poltronne que son père, le triste Gaston. À présent que tout était fini, même la fuite romanesque, en jouant à cache-cache avec des poursuivants imaginaires, la grande mademoiselle était tombée dans une extrême prostration physique et morale. L'héroïne d'Orléans et de la porte Saint-Antoine sanglotait comme un petit enfant parce qu'elle avait trop de chagrin et trop de peur. L'aspect de sa future demeure lui avait ôté son dernier reste de courage. Le château de Saint-Fargeau, commencé sous Hugues Capet et souvent remanié, en particulier au XVe siècle, tenait plus de la forteresse que de la maison de plaisance. Sa lourde masse dominait la vallée du Loing, dans une région de grands bois, très fourrée et très peu percée, enveloppé lui-même de broussailles et défendu par des fossés profonds. Le château s'harmonisait avec la sauvagerie du décor. Ses fenêtres s'ouvraient à une grande hauteur au-dessus du sol et ses tours étaient robustes. Ses corps de logis, massifs et nus, reliés entre eux par de fortes murailles, formaient une enceinte irrégulière et de mines sévères. L'ensemble était imposant. Il n'avait jamais été riant, et Saint-Fargeau, inhabité depuis longtemps, n'était plus qu'un immense nid à rats, presque une ruine, quand mademoiselle s'y présenta en fugitive. On la fit entrer dans une vilaine chambre, où il y avait un étai au milieu. Au sortir de son palais des Tuileries, cette vue l'acheva, en lui faisant mesurer la profondeur de sa chute. Elle eut un accès de désespoir.
Je me trouvais bien malheureuse, étant hors de la cour, de n'avoir pas une plus belle demeure que celle-là, mais de songer que c'était le plus beau de tous mes châteaux.
Sa peur devint de l'épouvante en découvrant qu'il manquait partout des portes et des fenêtres. Un rapport de valet avait achevé de lui faire croire qu'on la cherchait pour la mettre en prison, et elle n'était plus en état de comprendre qu'il n'y aurait verrou qui tinsse si le roi donnait l'ordre de l'arrêter. Elle reprit sa course pour gagner un petit château situé à 2 lieues de Saint-Fargeau, et qu'on lui disait très sûr.
« Jugez, dit-elle, avec quel plaisir je fis cette traite. Je m'étais levée 2 heures devant le jour. J'avais fait 22 lieues, et j'étais sur un cheval qui en avait fait autant. Nous arrivâmes à cette maison sur les 3 heures du matin. » Je me couchai en grande diligence.
La crise fut brève. Dès le lendemain, mademoiselle se laissa expliquer que Saint-Fargeau avait une double issue en cas d'alerte. Elle y revint d'elle-même le 4e jour, et il ne fut plus question d'avoir du chagrin, ni même de l'humeur, du moment que la place était
bonne et forte. »
La princesse prenait son parti des fenêtres éventrées, des plafonds étayés, des portes absentes et de tout le reste. Les grandes dames du XVIIe siècle n'en étaient pas à cela près. Mademoiselle campa dans un grenier, tandis que l'on réparait l'appartement au-dessous. Elle en fut réduite à emprunter un lit et recouvra toute sa gaieté devant la bouffonnerie de la situation pour une cousine germaine du roi de France.
« Par bonheur pour moi,
écrit-elle,
le bailli de Saint-Fargeau était marié depuis peu, ainsi il avait un lit neuf. »
Le lit de Madame la Baïve fut la grande ressource du château. On l'avait rendu sitôt que la princesse avait eu le sien, qu'on lui apporta de Paris, mais on y envoyait coucher les hôtes de marque, et il en était arrivé un défilé. Chose tout à l'honneur de la noblesse française. Dès que l'on avait appris où cet illustre disgracié allait passer son exil, mademoiselle ne savait où les mettre. On menait les plus importants chez le bailli. La duchesse de Sully et sa sœur, la marquise de Laval, venues ensemble pour un séjour assez prolongé, firent tout le temps la navette entre le grenier où la grande mademoiselle tenait sa cour et le lit neuf de la ville de Saint-Fargeau. Des femmes de qualité, arrivées au même moment, s'étaient logées où elles avaient pu, au petit bonheur, et il en fut ainsi, jusqu'à ce que le château eût été remis en état. Chacun était mal et personne n'y faisait attention. Il y a de l'élégance dans cette façon hautaine de traiter le confort. L'importance qu'il a prise de nos jours semble en comparaison bien bourgeoise, dans le mauvais sens du mot. Peu à peu, tout s'arrangea. Le château fut restauré. Les appartements agrandis. Le fouillis de végétation des abords fit place à une terrasse d'où l'on eut la surprise de découvrir une vue charmante. Le Saint-Fargeau des Capétiens et des premiers Valois.
« Lieu si sauvage,
dit mademoiselle,
que l'on n'y trouvait pas des herbes à mettre au pot lorsque j'y arrivais. »
Devint une belle résidence, hospitalière et animée. La maîtresse du logis aimait le grand air et le mouvement comme les aimait toute la noblesse de France, avant d'avoir été dressée par la monarchie absolue, dans l'intérêt de l'ordre et de la paix, à ne plus bouger des salons de Versailles. La décadence des muscles a commencé chez nous avec l'obligation de passer ses journées en bas de soie, à faire des révérences sous peine d'être exclu de tout. Les exercices violents furent abandonnés ou adoucis. On ne s'attacha plus qu'à ce qui donnait au corps les grâces majestueuses, en harmonie avec la galerie des glaces. Les bourgeois s'empressèrent de singer les gens de qualité, et les hautes classes payèrent leurs belles manières ou leurs prétentions aux belles manières par les migraines et les maux de nerfs du XVIIIe siècle. Le goût des sports ne devait reparaître en France que de nos jours. Nous venons d'assister à sa résurrection. Il était encore bien vivant au lendemain de la fronde, et mademoiselle s'y abandonnait avec passion. Elle fit venir d'Angleterre une meute et des chevaux de chasse. Elle eut un grand train d'équipage pour les promenades, un jeu de mail devant le château des jeux d'appartement pour les jours de pluie, ses violons des Tuileries pour faire danser, et il n'y eut pas de cour plus leste et plus fringante, plus allante et plus caracolante. Mademoiselle donnait l'exemple en personne que rien ne fatiguait jamais et assaisonnait ses
jeux d'action,
de causerie, dont quelques-unes nous ont été heureusement conservées par Segret, son secrétaire des commandements. Nous savons, grâce à lui, même en admettant qu'il ait un peu arrangé ses récits, de quoi l'on parlait à la cour de Saint-Fargeau, et on ne l'apprendra peut-être pas sans quelques étonnements. Il se disait là toutes sortes de choses que nous n'aurions jamais devinées, car nous nous figurions qu'elles n'étaient pas inventées au XVIIe siècle.